Bien, on va redémarrer la séance, s'il vous plaît. Donc, Serge Janicot de l'IRD va nous présenter la phase 2 du programme international AMA dont nous avons déjà plusieurs fois entendu parler.
Donc, je vais vous présenter le programme AMA, la phase actuelle. Et après, j'avais le choix entre présenter des résultats, mais il y en a déjà beaucoup qui ont été présentés. J'ai préféré vous présenter d'autres initiatives. En fait, je voulais en présenter deux SKEP, mais Benjamin l'a présenté ce matin. Donc, je parlerai d'un programme qui a démarré à la fin de l'année dernière, qui s'appelle STRIKE. Et puis juste derrière moi, donc Aronald Guéniou présentera un autre programme qui s'appelle RIFIEXA. Alors je ne vais pas revenir sur le contexte et les enjeux en Afrique de l'Ouest, vous l'avez vu dans les présentations précédentes. Donc AMA, un programme sur la mouflon africaine en Afrique de l'Ouest, sa variabilité et le traitement des interactions société-environnement-ressources-climat. Trois objectifs. Donc, améliorer notre compréhension de la mousson et ses influences sur l'environnement régional et global. Deuxièmement, produire les connaissances pour relier la variabilité du climat aux problèmes de santé et de ressources et définir les stratégies de surveillance adaptées. Et troisièmement, s'assurer que la recherche développée en amont de AMA soit intégrée correctement aux activités de prévision et de prise de décision autour des systèmes d'alerte précoce. Alors le projet donc, est bâti sur des questions scientifiques, le développement de la recherche s'appuyant sur les connaissances, les théories, les observations, la modélisation, pour aller vers des outils, des produits de prévision en lien avec les besoins de la société et en s'appuyant pour ce faire sur les centres régionaux et les services opérationnels nationaux. Donc, on a eu une première phase intensive de campagne de mesure entre 2002 et 2009. Donc, on a construit un réseau d'observation à la fois à partir de mesures intensives des campagnes, en particulier pendant l'été, l'année, le printemps, l'été 2006, campagne intensive. Ensuite, on a eu ce qu'on appelle une période d'observation renforcée sur plusieurs années, encadrant 2006, et puis autour de ça, on a des réseaux d'observation de suivi sur le long terme, sur les surfaces continentales, l'océan, l'atmosphère et les aérosols. On a travaillé au développement ou aux améliorations des outils de modélisation, permettant l'intégration des différentes disciplines, des échelles et des données. Et travailler sur la validation, l'amélioration de ces et on travaille toujours sur la validation, l'amélioration de ces produits. Et on a développé aussi une base de données satellite dédiée aux questions scientifiques. Et puis enfin une base de données, on a constitué une base de données multidisciplinaire et bibliographique avec un miroir à Niamey, à la Grimette, et donc qui est accessible à tout utilisateur intéressé. Voilà, donc là, vous avez la schématisation des réseaux de mesures qui ont été développés lors de la première phase et qui se maintiennent actuellement, avec en particulier sur un transect méridien, un emboîtement d'échelle avec une fenêtre qu'on appelle la fenêtre AMACATCH, qui est constituée de trois sites entre le Bénin, Niamey et le Mali. Des sites qui donnent des mesures à la fois des échelles et sur des super sites à l'échelle locale pour suivre toutes les variables géophysiques. Et puis associé à ça, on a essayé au maximum de développer des observatoires interdisciplinaires, donc qui allient à la fois climat, agriculture, végétation, ressources en eau et des enquêtes sociétales. Alors on a essayé de faire ça sur les sites, les sites de mésoéchelle instrumentés. On continue à travailler sur ces sites-là. Et puis il y a un certain nombre d'autres sites de mesure qui ont été installés avec des thématiques spécifiques à différents endroits. Vous voyez les thématiques qui sont affichées. Voilà, donc de ça, on a donc un outil qui est très important pour nous et pour les utilisateurs intéressés, c'est la base de données qui rassemble toutes les mesures in situ qui ont été réalisées, des séries de données historiques. On a les données des observatoires multidisciplinaires, on a fait des enquêtes, des enquêtes de terrain. Les données sont disponibles, tout ce qui est satellite, produits de modélisation. Une base bibliographique, c'est-à-dire qu'on essaye d'actualiser toujours toutes les publications en lien avec ces thématiques. Donc là aussi, c'est d'un accès totalement ouvert. Et puis on accueille maintenant d'autres projets, par exemple la campagne de terrain FENEC sur la dépression saharienne et l'impact des aérosols. Des projets de modélisation comme ANMIP 2 sur l'évaluation des schémas de surface à maison échelle locale, ou les données générées par le projet ESCAPE ou d'autres projets. On a un projet d'intercomparaison de modèles régionaux WAMI qui sera aussi hébergé sur cette base de données. Donc, je pense que ça, c'est un outil très, très, très important, très utile. De concentration et de données qui sinon pourraient être soit perdues, soit trop dispersées. Donc on est prêt à répondre à la mesure de nos moyens à tout fournisseur de données qui voudrait mettre ces données sur la base, ce qui nous permet d'avoir une certaine visibilité et qui permet aussi de croiser plus facilement avec d'autres données déjà sur cette base. Voilà, donc on travaille beaucoup, on a travaillé sur des efforts en formation, éducation, et puis beaucoup d'articles, donc beaucoup de publications, et des travaux qui continuent dans cette phase 2, et avec un nombre d'articles assez importants produits chaque année. Voilà, des outils de communication interne et externe. Voilà, donc c'est un programme international et pluridisciplinaire, avec une forte communauté, donc en particulier, peut-être que Aronin parlera, la communauté africaine, qui est maintenant regroupée sous l'égide d'une association de droit international, association nigérienne de droit international qui s'appelle Aranet. Et donc qui fait partie de cette dynamique internationale. Voilà. Alors. Pour schématiser un petit peu l'évolution entre la phase 1 et la phase 2, donc j'ai remis en haut les trois objectifs. Et puis en jaune, on a ce qui correspond à ce qui c'est les efforts qui ont été portés lors de la première phase, entre 2002 et 2009. Donc c'est un peu décalé vers la gauche. Avec beaucoup d'efforts sur, à partir des prises des campagnes de terrain, sur les études de processus, sur la construction d'une base scientifique et d'une communauté scientifique pour avancer, donc pour démarrer sur les questions société, environnement, climat, et quelques tests sur les produits de prévision et les systèmes d'alerte précoce. Et donc, notre objectif lors de la deuxième phase, qui est plutôt en orange, on a un document de prospectif qui a été publié sur l'horizon 2010-2020. L'idée, c'est, du côté de la partie géophysique, c'est de passer des processus à une description plus intégratrice du système de mousson. Et puis, d'autre part, c'est d'intégrer un peu mieux les disciplines pour aller vers le questionnement autour des interactions société, environnement, climat, et d'améliorer le transfert des connaissances entre la recherche amont et les services opérationnels dans le cadre d'informations climatiques et de produits adaptés à la communauté des utilisateurs potentiels. et donc de continuer à développer les observations pertinentes pour cette recherche et les applications multidisciplinaires. Alors, le document prospectif a été publié maintenant. Et donc, on l'a, donc c'est un document international, on l'a sciemment présenté dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on a voulu mettre en avant les questionnements sociétaux, enfin autour des interactions sociétaux-environnement-climat. Donc ça, c'est la communauté Amanette qui l'a rédigé, en mettant ses priorités, en détaillant la façon d'appréhender ces questions-là. Et puis ensuite, on a dit, ben voilà, si on veut répondre à ces questions-là, en particulier en termes de production de systèmes d'information, prévision ou à plus long terme climatique, il faut développer les outils de la prévisibilité, les outils de prévision, les systèmes d'alerte. Et on a trois échelles de temps à privilégier, donc l'échelle météorologique. Ensuite, l'échelle intrasaisonnière, donc Ousmane en a parlé, donc c'est typiquement la phase de mise en place ou de retrait de la mousson, ou l'occurrence de séquences sèches durant 5 jours, 10 jours au sein de la saison des pluies. Et puis l'échelle climatique, ou une échelle de temps qui commence à émerger, c'est l'échelle décennale, dans la mesure pour un certain nombre de gestionnaires. Elle est plus intéressante que l'horizon des scénarios climatiques. Et puis pour améliorer cette connaissance sur la prévisibilité et les outils de prévision, bah, il faut qu'on continue à progresser sur notre connaissance du système et la modélisation de ce système. Et donc ce que je disais, l'idée d'aller vers une vision plus intégrée, intégrant toutes les boucles de rétroaction à l'intérieur du système physique, et donc ceci intégré dans un système environnemental. Voilà. Alors, ce que je voulais, en fait, je voulais étendre un peu la présentation de ce programme vers les autres initiatives. Et je vous montrerai, pas d'une part pour vous informer, mais aussi parce que l'approche est différente. Et c'est une question qui se pose de manière générale quand on travaille sur le changement climatique. Et qui se pose, qu'on a eu par exemple à Alanvi dans le groupe sur le climat, et qui se pose à nous aussi dans le cadre d'AMA. Donc Escape, je ne vais pas revenir là-dessus, simplement, Benjamin l'a présenté ce matin, donc là, l'approche est plus transversale, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la vulnérabilité et aux capacités d'adaptation dans le contexte des variations et du changement climatique. Alors, je voulais juste montrer deux résultats quand même qui tournent autour de ces questions-là. Ça, c'est un travail dont je parlais tout à l'heure, des enquêtes de terrain qui ont été faites en 2007, 2008, 2009. Donc ça, il y a eu donc sur toute la, vous voyez tous les sites qui sont sur lesquels des enquêtes ont été réalisées autour de la perception des variations climatiques et de l'adaptation, des stratégies d'adaptation. Et je vous montre des résultats en ce qui concerne d'une part l'agriculture et d'autre part les troupeaux. Et des questionnaires ont été donc. On a posé un certain nombre de questions aux gens sur leur perception des impacts. Des causes, plutôt leur perception des causes de baisse de rendement, d'une part, et puis de baisse dans la quantité de leur cheptel. Et en fait, ce que j'ai représenté ici, c'est les précipitations, c'est-à-dire le climat. Et donc les couleurs représentent différentes zones climatiques pour différents totaux annuels de précipitations. Donc on voit que pour l'agriculture, le déficit, enfin, ou les mauvaises conditions climatiques arrivent en premier, enfin, comme la raison la plus souvent mise en avant, mais il y en a un certain nombre d'autres qui sont hors climat. Et pour les cheptels, c'est moins net, et le facteur climatique arrive simplement en quatrième position. Et ensuite, en termes de capacité, de stratégie d'adaptation, il y a un certain nombre de diversification, de réponses diverses qui sont données, que ce soit pour l'agriculture ou pour les troupeaux, et qui montrent une forte, une relativement forte capacité de réponse aux variations climatiques et aux changements environnementaux. Et le deuxième résultat donc, qui est tiré de la thèse de Philippe Roudier, Ousmane parlait tout à l'heure des prévisions pré-SAO, donc ça c'est un exemple de prévision saisonnière qui est fournie par le centre ACMAD et qui donne pour des zones assez grandes en termes de probabilité ce que sera le cumul des pluies pour la prochaine saison. Vous voyez par exemple ici 50% de probabilité que les pluies soient excédentaires, 35% qu'elles soient autour de la normale et 15% qu'elles soient déficitaires. Et donc, dans le travail de Philippe, a été mis en place un modèle économique permettant d'évaluer de manière académique les gains que pourraient obtenir les paysans ou les agriculteurs s'ils prenaient en compte cette prévision saisonnière. Alors, c'est ce qui est représenté ici par la barre noire pour les années sèches, pour les années normales, pour les années humides et puis pour l'ensemble des années. Donc on voit qu'une information, un gain économique existe en particulier dans les années humides. Et en fait, c'est une prévision qui est relativement imparfaite. Ousmane en a parlé. Donc ensuite, deux autres tests académiques ont été faits. Le deuxième, en grisé, c'est le gain obtenu si cette prévision saisonnière était parfaite. Et le troisième test, c'est ça montre l'importance de l'information intra-saisonnière, c'est-à-dire si on intègre, si on pouvait intégrer en plus une prévision parfaite sur le début et la fin de la saison des pluies, quel serait le gain? Et on voit que c'est là que se fait, d'un point de vue académique, que se fait le gain le plus important. Et c'est pour ça que la suite naturelle qui a été réalisée dans la thèse de Philippe, c'est à l'instar de ce qu'a montré Ousmane, c'est de faire des ateliers participatifs pour valider un petit peu ces scénarios économiques, et c'est ce qui a été réalisé dans cette thèse. Donc on voit en termes d'adaptation un exemple particulier de l'apport, au moins d'un point de vue académique, que pourrait avoir la prévision saisonnière et la prévision intra-saisonnière si elle était possible. Voilà, donc un autre projet, donc STREC, enfin, c'est un programme. Donc, programme pilote régional, l'IRD a développé un certain nombre de programmes régionaux de façon à, disons, mutualiser un peu les efforts de toutes les équipes qui sont soit dans les labos, soit sur le terrain, travaillant sur des zones régionales identiques et de monter un certain nombre de projets. Soit complètement interdisciplinaire, soit lié à une thématique particulière. Et donc là, ce programme s'appelle Société rurale, environnement et climat en Afrique de l'Ouest. C'est un programme qui est complètement interdisciplinaire et qui veut mettre en interaction le climat, l'environnement et les sociétés. Et travailler vraiment sur ces questions d'interaction. Donc je liste un certain nombre de disciplines qui interviennent dans chacune de ces thématiques. Mais l'objet est de travailler sur les interactions. Donc là, le domaine couvert par ce programme, donc l'Afrique de l'Ouest. Et là sont présentés au milieu des quatre axes principaux, les quatre axes de recherche qui ont été définis. Identification et construction d'indicateurs, dynamique des territoires et évolution du climat, vulnérabilité des écosystèmes et des sociétés, et construction de la résilience. Alors ce que je voulais montrer un peu en montrant ce programme-là, c'est qu'actuellement, il y a un certain nombre d'initiatives de recherche, que ce soit AMA, ESCAPE, SPEC ou RIPIEXA, dans le paysage franco-africain, et que il faut, les approches sont différentes, on verra ça dans le dernier transparent, et il y a une nécessité de coordonner les actions, les approches, de façon à mutualiser les efforts et à fournir une plus-value. Donc là, c'est ce qui est montré simplement dans l'interaction possible entre les dominantes d'AMA et les dominantes de SREC. Il y a une zone d'interaction, enfin une zone commune qui est assez importante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de partenaires d'AMA qui sont dans SREC, il y a beaucoup de thématiques qui sont les mêmes. Simplement, l'approche est un peu différente. Et donc voilà, ça c'est ce que je voulais montrer. Alors est-ce qu'on voit bien En fait, je pense qu'il y a actuellement, enfin de manière générale, ce que je disais, c'est ce qu'on a vu un peu qu'on a débattu dans le groupe climat d'Alambi. Il y a deux approches différentes. Une approche que je dirais pluridisciplinaire ciblée, c'est-à-dire qui part vraiment du climat, la variable climat. Donc c'est ce qui est décliné dans AMA. Une partie mécanisme, prévision climatique, une partie impact, quantification des incertitudes, donc impact à la fois géophysique qui vont avoir une rétroaction sur le système climatique lui-même, et puis impact socio-économique, et puis ensuite une fourniture d'informations climatiques par le suivi, par la prévision, l'association avec des services opérationnels, pour aller vers des systèmes d'alerte et des prises de décision. Et puis il y a une autre approche qui est plus transversale, qui est de dire, voilà, on a un éco-sociosystème, on a un certain nombre de contraintes, de drivers, le climat est un de ces forçages, mais c'est pas le seul, il n'y a pas de raison de le mettre en avant, forcément. Et à partir de là, on peut décliner une réflexion autour de la vulnérabilité, que ce soit par rapport au climat ou par rapport au changement environnemental global, des capacités d'adaptation pour aller aussi vers des prises de décision. Et puis, il y a automatiquement une interaction entre ces deux approches, donc les impacts, la variation du climat, on va le retrouver, toute l'analyse qui est faite sur la connaissance des mécanismes du climat, on va le retrouver dans cette approche-là. Et inversement, toute l'activité anthropique peut se retrouver avec des interactions, des rétroactions vers le climat. Et là, on est un peu dans la zone de détection, attribution, à savoir sur, par exemple, ce qu'on appelle le paradoxe sahélien, c'est-à-dire qu'on a vu les pluies diminuer régulièrement, mais par contre, on a observé le niveau des frappes des nappes phréatiques remonter. Et donc, ce qui correspond en fait le mécanisme à une association entre la variabilité climatique et l'usage des sols qui a eu pour conséquence d'augmenter le ruissellement. Voilà. Et donc, pour vous dire que, moi pour ce qui est du paysage français, on peut le représenter de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on a la spécificité des études développées en France dans AMA autour des mécanismes du climat et de ses impacts. Et puis on a un certain nombre d'initiatives, soit directement dérivées d'AMA, soit développées en parallèle ou en association, comme SREC ou RIPIEXA, qui se situent avec une vision plus transversale dès le départ. Et donc l'enjeu, c'est de bien coordonner toutes ces initiatives puisque la plupart des objectifs sont et la zone d'étude et la même. Voilà, je vous remercie. La dernière chose, je veux juste rappeler qu'il y a la 4e conférence internationale qui est organisée à Toulouse et qu'il faut déposer des abstracts avant le 11 mars. Merci.
Des questions? Alors je crois qu'on n'a plus qu'un micro ou l'autre qui marche aussi. Est-ce qu'il marche? Non.
Si
ça marche, parce que soi-même, on se rend compte. Des questions sur l'exposé de Serge? Que tu pourrais, dans SREC, décrire un peu plus concrètement ce que ça veut dire. Est-ce qu'il s'agit de d'appel à projet ou est-ce que c'est
comment ça marche? Ben, ça dépend. Bon, c'est ce qu'on appelle un PPR, un programme pilote régional.
Oui, mais pour les non-IRDiens, est-ce que tu peux expliquer?
J'explique. Et donc le fonctionnement est un peu ça dépend des programmes. Quoi. Parce qu'on n'a pas eu vraiment de cadrage. On nous a donné un thème a été défini, et il a fallu s'organiser à partir de ça. Donc logiquement, c'est un programme interorganisme, parce que ça doit être porté par l'AIRD, l'agence interorganisme de recherche pour le développement, c'est-à-dire qui réunit Thème Immobilier, l'IRD, le CIRA, le CNRS, les universités, l'INSERM, l'Institut Pasteur. Et un septième. Alors, moi, je peux décrire ce qui s'est passé pour SREC. Donc, en fait, c'est comme piloté au départ par l'IRD. Donc, ce sont les équipes IRD qui se réunissent. Donc, on a invité le CIRAD quand même, parce qu'il y avait un côté un volet agriculture qui était fort. Et puis, on a écrit un livre blanc, c'est-à-dire qu'on a amené une réflexion scientifique sur. En termes d'interaction société-environnement-climat sur les sociétés rurales en Afrique de l'Ouest, est-ce qu'on pouvait amener comme questionnement, c'est ce que j'ai montré ici. Et puis, on a défini des fiches projets. Donc, ce qui veut dire que, je pense, le message de l'IRD et de l'agence, c'est de dire, voilà, on a construit un projet, on a une masse critique de chercheurs d'ailleurs qui est prêt à travailler. On cherche des financements. Et le rôle de l'agence, c'est d'aller chercher des financements pour vendre ce projet. Donc pour l'instant, je veux dire clairement, hein, l'agence ne fait pas trop son travail. Donc l'IRD donne un financement pérenne, c'est un programme sur 5 ans. Donc on a eu 100 000 euros l'année dernière. On aura à peu près l'équivalent, pour vous dire, l'IRD met 80 000 euros dans la mare. Donc voilà, on est à peu près à ce niveau-là. Et moi je trouve que, autant c'était très intéressant cette construction et les fiches projets qui sont là sont vraiment intéressantes. C'est aussi un complément très, 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 très intéressant pour Amar. Mais en termes de financement, c'est compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent à distribuer. Il y a quand même 20 actions pilotes qui sont sur le papier. Bon, l'année dernière, on en a financé 5. Cette année, on en prend en financer plus. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est pas. Je ne suis pas le seul à penser ça, mais le fonctionnement n'est pas satisfaisant. Mais l'initiative est très bonne et je pense que cette complémentarité d'approche est vraiment très intéressante. On peut cibler une question et puis essayer de prendre plus largement la problématique. C'est très complémentaire et on peut avancer vraiment en termes de connaissances.
D'autres questions ?
Est-ce que ce que tu as présenté tout à fait de façon très logique, que la différente vision qu'il y a un petit peu entre Hama, par la construction, qui parle du déna, etc., et l'autre qui a un avantage, est-ce que ça ne masque pas au fait de certains désengagements des instituts, des agences, enfin, etc., vis-à-vis d'une recherche programmée, programmatique, sur, disons, par exemple, les programmes qui étaient sur la. Qui relevaient de ces aéros à droite de ton plan de schéma, étaient des programmes d'une durée de vie de 3, 5 ans pour la plupart. Et en a deux, c'est 10 ans. Et en a, il existe depuis 10 ans. Donc voilà la question. Est-ce qu'il y a un gap à ce niveau-là?
On va Ouais, c'est clair. Bah, je pense que on a eu beaucoup de chance à la première phase de la MAD de bénéficier d'un effort extrêmement important des organismes qui nous a permis de monter le projet, de le faire financer. On a eu un projet européen aussi qui est extrêmement important et indispensable dans ces gros projets européens n'existent plus maintenant non plus. Maintenant, on est dans un paysage complètement différent. Globalement, on est. Bon, pour ce qui est des organismes, il y a IMEX qui arrive maintenant en première priorité, ce qui est tout à fait normal. Et puis à côté, il y a un financement type ANR, type projet, qui est assez contradictoire avec l'idée, parce que ce sont des financements aux recherches, innovation, si on fait un projet, après on ne va pas le renouveler une deuxième fois. Donc il va complètement à l'opposé d'un programme qui veut travailler sur 10 ans, sur le long terme. Ça rend les choses plus compliquées.
Oui, c'est clair que de soutenir une action sur du long terme, ce n'est pas quelque chose de très facile non plus pour les organismes. Ça pose des difficultés. Alors après, un point peut-être d'information. Pour travailler ensemble au niveau européen, on met en place des mécanismes de programmation conjointe entre les pays, et donc la coordination de campagne, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être facilité par le fait qu'on ait un lieu de dialogue, de mise en commun d'action entre les pays. Actuellement, donc il y en a une sur le climat, et on mentionne très clairement dans les zones. Les zones clés, il y a la Méditerranée bien sûr, les zones arctiques, mais la zone africaine, de mousson africaine, reste une zone importante et qui intéresse plusieurs pays européens. Donc ça peut être aussi un moyen de relancer une dynamique entre les pays en complément d'action par le programme cadre, voire un moyen aussi de pousser des idées auprès du programme cadre. Voilà, donc c'est un point d'information, ça pourrait être quelque chose qui soit utile.
Bonjour cher. Il y a un nouveau programme allemand qui s'appelle OSCAR, vous le connaissez, et qui a eu beaucoup d'argent en Afrique de l'Ouest qui est en train de faire des choses. Parce qu'il y a une connexion entre OSCAR et AMA. Et comment, en tant que représentant de AMA, vous pensez un peu travailler avec le programme OSCAR? Parce qu'on peut regarder ces deux manières. Une manière, c'est pour consulter qui est là. L'autre manière, c'est pour ne pas aussi créer des concurrences et des confusions au niveau des Africains eux-mêmes. Parce qu'il y a des programmes qui sont là, comment on s'encadre, le programme vient en connaissance. Est-ce qu'il n'y a pas, doit pas avoir une coordination entre ces programmes-là?
Alors, je pense que pour l'instant, on avait essayé à un moment donné de contacter Pascal, ça ne s'est pas fait. On les a invités à la conférence internationale. Mais je pense qu'il y a beaucoup, il y a un volet formation qui est très important. Et je sais qu'Arona participe dans ce cadre-là. Participe aux efforts de formation qui sont développés dans la SCAD. Mais je comprends très bien, c'est vrai que ce programme-là prend un poids très important maintenant, parce que c'est 50 millions d'euros sur 5 ans, donc ça se sent, tout le monde nous en parle, l'IRD met des gens. Paye des gens de l'expatriation, donc met aussi beaucoup d'argent d'une autre façon. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que depuis qu'on a eu un projet européen qui nous a beaucoup, assuré une forte cohésion européenne, on a un peu perdu cette cohésion.
C'est soutenu par le ministère allemand. La programmation conjointe peut être un lieu de discussion si on a le BMBF comme interlocuteur. Okay. Bien, je crois qu'on a déjà un peu entamé la discussion de la table ronde, c'est très bien. On commence sur les sujets avec un plan, on va poursuivre donc avec Ripieksa, avec Arona Diédou.